Mobiliser pour la mobilité.
Ça tombe.
Le podcast du syndicat des professionnels de la relocation et de la mobilité.
Mobiliser pour la mobilité, un podcast du syndicat des professionnels de la relocation et de la mobilité. Un espace d'expression pour mieux comprendre les acteurs du secteur de la relocation, pour appréhender les enjeux, les changements, les difficultés. Un podcast pour s'informer, s'éduquer et communiquer sur une filière méconnue mais indispensable dans le monde du travail. Outre le cliché sans doute un peu surfait des photos prises sur les plages de Bali, s'engager dans le digital nomadisme demande un minimum de préparation, d'organisation. C'est ce que nous voyons dans ce nouvel épisode du podcast avec Émilie Ledan. Protection sociale, fiscalité, avantages et inconvénients d'un tel statut, vous saurez tout ou presque avec cette avocate spécialisée en mobilité internationale et fiscalité personnelle.
Une longue histoire.
Alors, moi, c'est un cabinet dédié à la mobilité internationale. Donc, mes missions sont l'accompagnement des sociétés dans le cadre de leur projet à l'international. Donc, soit dans le cadre de recrutements internationaux, soit dans le cadre de mobilité de collaborateurs français vers des entités étrangères ou pour ouvrir des entités étrangères. Donc, je les accompagne dans le développement RH international. Techniquement, j'interviens principalement sur les sujets de protection sociale à l'international, donc autrement dit la sécurité sociale, sur les enjeux économiques et réglementaires, détachement, expatriation, et sur la fiscalité des collaborateurs, donc détermination de la résidence fiscale, détermination du droit d'imposition, régimes fiscaux de faveur, etc., etc. Donc ça, c'est mon cœur d'activité et j'ai une clientèle, du coup, voilà, ma clientèle type, elle est sur des DRH de la start-up à la grosse ETI.
Avec généralement des sociétés qui viennent de pays divers et variés, pas forcément de spécificités.
Non, pas de spécificité. J'ai plutôt un portefeuille de sociétés françaises qui ont des enjeux de mobilité à l'international. Mais je suis amenée à travailler pour toute société indienne, chinoise, américaine qui ont des activités en France.
Ça marche dans les deux sens, ça veut dire avec des gens qui arrivent sur le territoire français, des gens qui prennent le chemin inverse.
Exactement. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais je peux être amenée effectivement, donc bien sûr, à accompagner ce qu'on va généralement appliquer. Nommés comme étant des expatriés, donc des personnes qui s'en vont, mais aussi effectivement des étrangers qui viennent en France. Et là, du coup, il y a une couche supplémentaire d'interculturel qui est très importante parce qu'il faut qu'ils puissent comprendre aussi le régime français, qui est parfois pas évident, et particulièrement le régime social en France. Il suffit de regarder un bulletin de paye étranger et un bulletin de paye français pour comprendre que... on est sur des dispositifs et des schémas qui sont très éloignés pour la plupart des pays.
Ça veut dire aussi, de votre côté, une connaissance des règles fiscales de quasiment, pas chaque pays, mais en tout cas les pays dans lesquels vous collaborez. Vous avez des gens, justement, dans ces pays-là qui peuvent vous aider ?
Alors, j'ai un réseau de partenaires pour m'aider dans ces domaines-là. Je ne suis absolument pas une fiscaliste américaine, chinoise. J'ai des réflexes, j'ai un vernis, j'ai quelques bases qui me permettent de comprendre, mais je ne me substitue jamais à des experts locaux. Et quand le besoin se fait jour, je vais voir mes correspondants pour proposer un accompagnement global, bien sûr. Oui.
On va parler du sujet pour lequel on vous a demandé de participer à ce podcast, qui est le nomadisme digital. Est-ce qu'on peut redonner une définition de ce qu'est le nomadisme digital ?
Le nomadisme digital, on peut aussi l'appeler work from anywhere. C'est la capacité pour des personnes, en fonction de une certaine typologie de métier, d'exercer depuis n'importe quel pays dans le monde et de pouvoir s'y installer à plus ou moins moyen terme pour pouvoir exercer la même activité. mais depuis un autre pays.
Alors moi, je pense, quand j'entends le mot, enfin les mots nomadisme digital, je pense beaucoup aux indépendants, aux auto-entrepreneurs qui travaillent, qui voyagent et qui travaillent en même temps. Il y a beaucoup de gens que je suis qui font ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça, en fait. C'est réducteur de penser que ce ne sont que des indépendants.
Alors, c'est réducteur et en même temps, c'est la vérité. En soi, techniquement, ça pourrait être des salariés. Pour autant, la relation hiérarchique, l'opérationnalité du métier, le fait de travailler en équipe, avoir besoin d'être sur des fuseaux horaires similaires, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui le proposent. Il y en a certaines qui le mettent en place en l'encadrant de manière assez stricte et en l'accompagnement de manière très poussée. Mais c'est vrai que je pense que 70 à 80% des nomades digitaux sont actuellement des freelances, des personnes qui ont leur propre société et qui sont leur propre patron et donc peuvent choisir de travailler en asynchrone depuis une plage en Thaïlande ou à...
Alors c'est vrai que ça fait rêver. en tout cas, de ce qu'on peut voir de ces aventures entrepreneuriales au bout du monde, avec effectivement, comme vous l'évoquiez parfois, des photos ou en tout cas des bureaux sur les plages thaïlandaises ou ailleurs. Mais la vie là-bas n'est pas forcément aussi rose que ça. Il y a aussi des règles à respecter. Il y a toute la partie administrative, on va en parler, la partie de la fiscalité qui vous concerne. Alors justement, par rapport à ça, si on devait donner des conseils, quels sont-ils?
Je pense qu'il faut, avant de partir, se faire une petite checklist des avantages et des inconvénients et bien anticiper. Le digital nomadisme, c'est la porte d'entrée, c'est l'immigration. Ce sont des visas qui ont été développés par certains pays pour attirer les talents et leur permettre effectivement de travailler depuis leur territoire avec des exigences un peu plus légères que pour une installation définitive. Pour autant, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la mobilité, et il y a d'autres enjeux. Moi, le tout premier, quand même, avant même de parler de conformité fiscale, c'est tout ce qui va être autour de la santé et de la sécurité de ces personnes-là. Si je suis freelance et que je pars en Thaïlande et que j'ai un problème de santé, il faut que je puisse aller à l'hôpital, il faut que je puisse être couverte, ou en tout cas, si je fais le choix de ne pas avoir pris d'assurance, que j'en ai bien conscience. C'est un vrai sujet, la santé, et il y a des solutions de mutuelles à l'international sur du court terme pour permettre de se protéger dans différents pays en fonction des situations. Ce sont des choses, quand on est freelance, à laquelle potentiellement, on peut ne pas penser parce qu'on ne voit que l'immigration et le passeport. Quand on est salarié, ça va plus être... La sensibilité sera plus prégnante parce que c'est la responsabilité de l'employeur que d'assurer la sécurité de ses salariés en mobilité. Mais moi, j'attirerais vraiment un gros focus là-dessus, sur la santé. Bien anticiper ça. Et puis ensuite, vérifier que fiscalement, je peux me maintenir X jours sur place et que pour autant, je ne vais pas devoir des impôts. Vérifier ce qui va se passer vis-à-vis de la France, si c'est mon pays d'origine. Est-ce que je dois continuer à déclarer? Qu'est-ce que je dois continuer à déclarer? Le digital nomadisme, fiscalement, à date, ce n'est pas quelque chose qui est en soi réglementé. Elle tombe sous d'autres chapeaux de conventions fiscales internationales et ça nécessite aussi de se poser la question.
Et j'imagine aussi que ça va dépendre des pays où on va. Là, depuis le début de l'entretien, de l'échange que nous avons, on parle de la Thaïlande. Bon, j'en ai vu aller au Brésil, au Mexique, alors plus proche, le Portugal aussi, on en a beaucoup parlé de ces derniers temps, qui a priori fait des efforts pour attirer les talents. Ça va dépendre des continents et des pays, hein, j'imagine aussi.
Absolument. La fiscalité est d'abord régie par des lois internes propres à chaque pays. Et après, il existe tout un maillage de conventions fiscales pour permettre d'éviter tout risque de double imposition. Mais encore faut-il être au courant de comment ça se passe aussi dans le pays. Le premier niveau, c'est quand même de considérer, en regard du droit interne de chaque pays en jeu, ce qui va se passer. Et la réglementation au Portugal ne sera pas la même qu'en Thaïlande, elle ne sera pas la même qu'au Mexique. Donc, c'est effectivement un point à anticiper. Et
Ça veut dire
si
aussi.
j'ai vécu du digital nomadisme au Portugal, je peux ne pas avoir les mêmes contraintes et les mêmes sujets que si je pars en Thaïlande.
Ça veut dire aussi, vous l'avez effleuré tout à l'heure, il y a des pays hein, qui font des efforts par rapport à ça pour attirer justement et puis proposer en termes de fiscalité davantage des choses intéressantes pour les
Alors,
nomades
les
digitaux.
personnes qui vont s'installer, mais là, du coup, effectivement, on va être sur des personnes qui vont en général basculer leur résidence
Ah,
fiscale
oui.
et rompre leur résidence. Le plus souvent, l'intérêt est justement d'attirer ces personnes-là pour qu'elles deviennent résidentes fiscales du pays. Et alors, il y a des régimes fiscaux de faveur, bordés, encadrés le plus souvent aussi dans le temps. Avec un certain nombre de conditions, mais le corollaire, ça veut dire que je bascule complètement aussi ma résidence fiscale. C'est un subtil équilibre à piloter.
En tout cas, vous avez donné un conseil qui est important, effectivement, de faire la checklist avant de partir. On sent bien aussi dans l'esprit, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça de mon chez moi, parce que j'ai pas participé à ce genre d'aventure, en tout cas pas entrepreneuriale. L'esprit aussi du digital nomadisme, bon, voilà, c'est alors de partir un petit peu comme ça à l'aventure. On fait sa valise, on met son ordinateur portable dedans, son passeport, effectivement, on atterrit en Thaïlande, et puis après, ben voilà, on va peut-être en Corée du Sud, et puis après, voilà, on va au Portugal, et puis après, on bouge tout le temps, en fait, hein, donc d'où la difficulté aussi d'être à l'aise avec les différentes fiscalités des différents pays où on va.
Exactement, et c'est un vrai sujet, hein. C'est les personnes qui vont. Il y a un mythe autour des 183 jours, mais qui se retrouve dans beaucoup de juridictions, autour de cette notion de partir et de ne rester que 6 mois dans chaque juridiction. Comment je paye mes impôts? Et là, ma foi, c'est pas parce que ma vie tient dans un sac à dos que ma fiscalité est nécessairement attirée avec mon sac à dos. Donc, le digital nomadisme est un véritable intérêt pour certains profils. Pour autant, c'est une liberté encadrée.
C'est quoi le mythe des 183 jours?
Le mythe des 183 jours, c'est de se dire que si je reste moins de 183 jours dans un pays, je ne serai pas résident fiscal de ce pays-là. C'est un mythe, c'est-à-dire, c'est une pensée commune. Un peu réductrice parce que c'est pas toujours le cas dans tous les pays. Il faut faire attention à cette durée. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la résidence fiscale.
Le conseil aussi, effectivement, c'est peut-être aussi faire appel à vos services ou en tout cas à votre secteur d'activité avant de partir hein, pour être bien bordé.
C'est pas forcément très compliqué, mais je pense que avant de prendre une décision, il faut la prendre de manière éclairée. Et que juste un entretien d'une demi-heure, 3 quarts d'heure pour expliquer sa situation et échanger sur ce que ça signifie, ça pourra ne pas remettre du tout en question le projet, mais au moins ça permettra d'y aller peut-être plus sereinement et en tout état de cause beaucoup plus averti sur ce qui peut se passer si j'ai un accident de scooter à Bali, si finalement je reste 9 mois plutôt que 6 à Bangkok. C'est important de l'anticiper.
Le nomadisme digital, c'est aussi une question générationnelle. Je veux dire par là, c'est généralement des gens plus jeunes qui se lancent. Ou là aussi, c'est un mythe.
Alors non, c'est pas un mythe, mais je pense que c'est la réalité parce qu'il y a des sujets familiaux qui peuvent se poser à un certain âge. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes d'un certain âge, il y a des enjeux de familiaux, de conjoints, de conjointes qui travaillent, d'enfants à scolariser, ce qui permet un peu moins de bouger. Donc effectivement, le digital nomadisme, comme on l'entend sur 5-6 mois à l'étranger, va plutôt se présenter pour des personnes jeunes ou avec des petits-enfants et avec un profil un peu plus entrepreneurial. Mais on peut avoir un peu de digital nomadisme mis en place par des sociétés sur une volumétrie de 1 à 2 mois qui peut tout à fait convenir à des personnes qui ont des enfants scolarisés. Qui vont partir un mois à l'étranger en vacances et qui vont utiliser le mois d'après ou le mois d'avant pour télétravailler depuis l'étranger. C'est aussi, et certaines entreprises le voient comme un vrai bénéfice, comme un vrai avantage social supplémentaire que de proposer ce mois supplémentaire pour les salariés en leur disant, bah, vous allez faire un mois de vacances. Au Brésil, et vous pourrez continuer pendant un mois à y vivre tout en y travaillant. Ça existe. Et là, pour le coup, ça s'adapte très très bien à des familles dont les enfants sont scolarisés, en tout cas pour des familles françaises.
Je sens aussi ce secteur exponentiel en France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui vont vers le nomadisme digital ou ça a toujours été quelque chose de présent sur le territoire français?
Non, c'est quelque chose qui pour moi est relativement nouveau
Ouais.
dans les pratiques. Oui, tout à fait. Qui tend effectivement à être, j'ai l'impression, comme une étape assez standard pour beaucoup de jeunes auto-entrepreneurs qui vont pouvoir ménager leur business et leur vie personnelle depuis La Réunion pendant un mois. Donc, pour autant, dans les entreprises, c'est une réflexion, toutes n'y sont pas. En fait, ça va dépendre de quelle population on parle. Encore une fois, sur les auto-entrepreneurs et les personnes indépendantes, je pense qu'effectivement, il y a un trend à ce que ça se présente assez régulièrement. Pour les entreprises, pour le moment, les enjeux de conformité sociale et fiscale font que quand elles y viennent dans un cadre ou en posant certaines limites, et toutes n'y vont pas.
C'était Mobiliser pour la mobilité.
Un grand merci à Émilie Ledon pour sa disponibilité et ses précieux conseils. N'hésitez pas à faire appel à ses services si vous décidez d'embrasser le statut de nomadisme digital. En rappel, vous pouvez écouter les autres entretiens sur le site du CNPRM au sein de la partie blog. À très vite pour de nouveaux échanges autour de la mobilité et de la relocation.
Ça tombe.
Le podcast du syndicat des professionnels de la relocation et de la mobilité.
Une longue histoire.